Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le premier dimanche de Carême. Rempli du Saint Souffle spirituel, Jésus quitte les bords du Jourdain. Le Souffle spirituel le conduit au désert. Et là, pendant 40 jours, il est mis à l'épreuve par le diable. Il ne mange rien durant ces jours-là. Quand le temps est achevé, il a faim. Le diable lui dit,
« Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir pain. »
Jésus répond,
« Il est écrit, « L'être humain ne vivra pas seulement de pain. »
Le diable l'amène alors sur une hauteur pour lui faire voir tous les royaumes de l'univers en un instant. Le diable lui dit,
« À toi je donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, car cela m'a été donné et je le donne à qui je veux. Pour toi donc, si tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. »
Jésus lui répond,
« Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seulement que tu rendras un culte. »
Puis le diable le conduit à Jérusalem. L'ayant placé au sommet du temple, il lui dit,
« Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, pour toi, ses messagers, il donnera l'ordre de te garder. Et aussi, ils te porteront dans leurs mains pour que ton pied ne heurte pas une pierre. »
Jésus lui répond,
« Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur Dieu, ton Dieu. »
Ayant épuisé toute épreuve, le diable s'éloigne de lui jusqu'au temps fixé.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Voici un texte très connu qui peut nous laisser parfois indifférents. Que peut signifier pour nous au XXe siècle ces tentations? Quel sens peut avoir de changer des pierres en pain, de se jeter du haut du temple ou de recevoir du diable lui-même le pouvoir sur tous les royaumes du monde? Ces deux premières tentations ne relèvent-elles pas de la magie? Ces tentations rejoignent-elles notre vécu quotidien?
Voilà bien des questions. Eh bien, regardons d'abord le contexte. Dans les récits évangéliques synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, ce récit des tentations se situe entre le baptême de Jésus et les débuts de son ministère. Le récit de Marc, au chapitre 1er, ne fait que signaler cette retraite de Jésus au désert sans détailler les tentations. Eh bien, cette mention toute simple peut nous dire que cet épisode du désert a été un fait réel dans la vie de Jésus. Matthieu et Luc, par contre, vont, avec leurs trois tentations détaillées, faire comme une sorte de catéchèse, une catéchèse que les premières communautés chrétiennes ont élaborée autour de ce fait précis, la retraite de Jésus dans le désert. Et ils vont illustrer les tentations qui ont été celles de Jésus, mais tout au long de son ministère. Notre récit est donc comme un résumé de la vie de Jésus, donnant les choix auxquels Jésus a été comme acculé pour vivre véritablement en communion avec Dieu, selon la pensée même de Dieu. Chacune des tentations est décrite dans un même schéma. D'abord le cadre de la tentation, la montagne, le désert, le temple, puis la provocation du malin, et enfin la réponse de Jésus, une réponse d'ailleurs qui sera toujours faite de citations de la Bible.
Pourquoi avoir choisi le désert pour cadre général des tentations?
Jésus, rempli d'esprit divin, revint du Jourdain Il était dans le désert, conduit par l'Esprit, pendant 40 jours. Le chiffre 40 lui-même est un chiffre conventionnel dans la Bible, désignant plus particulièrement le temps qui est nécessaire à la maturité, soit d'une personne, soit d'un événement. Ainsi, le petit enfant, l'embryon, demeure 40 semaines dans le ventre de sa mère avant de devenir vraiment un être humain. 40 ans, c'est aussi le temps de la formation du peuple de Dieu dans le désert, sous la conduite de Moïse, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte pour aller vers la terre qui leur a été promise. 40 jours, c'est aussi le temps de la marche d'Élie vers le mont Horeb, et ce sera aussi le temps des apparitions du Christ ressuscité entre Pâques et Pentecôte, selon le récit de Luc. Nous avons nous-mêmes l'expression « être mis en quarantaine » pour dire qu'on est mis à l'écart, pour être mis à l'épreuve, précisément. Le désert, eh bien, c'est le lieu symbolique dans la Bible, symbolique de la rencontre de Dieu. Le Deutéronome en donne le sens.
Tu te souviendras de toute la route que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert, afin de te mettre dans la pauvreté. Ainsi t'éprouvait pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur et savoir si, oui ou non, tu allais observer ses commandements.
Le désert apparaît donc comme un temps de mise à l'épreuve. Il est le lieu de l'expérience de la pauvreté, pauvreté de nourriture qui fait éprouver la faim, pauvreté de présence humaine qui fait connaître la solitude, pauvreté enfin de nous-mêmes qui nous met face à nos faiblesses et à notre péché. Eh bien, cette solitude amène à faire autant la rencontre du divin que la rencontre du malin. Le malin nous soufflera de donner une importance absolue aux nourritures terrestres, en réponse à cette faim, et aussi une importance absolue aux amours humaines face à cette solitude que nous allons éprouver. Et on sera ainsi conduit à prendre pour idole, d'une certaine manière, soit les biens matériels, soit les êtres humains. Mais cette épreuve pourra aussi nous inspirer, au contraire, de rechercher les vrais absolus, ceux qui ne sont pas éphémères et qui vont nourrir, mais nourrir d'immortalité. Ces vrais absolus qui sont de vivre sa vie au plan spirituel et de passer d'amour un peu passion, possessif, à des amours plus généreux, plus gratuits. Le désert, c'est donc un peu comme le tout et le rien. C'est le lieu des choix qui font vivre ou bien qui font mourir. Le désert manifeste avec force l'écart qu'il y a entre notre manière humaine de penser et les mœurs de Dieu, entre nos espoirs, qui sont souvent futiles et vains, et l'espérance véritable, celle qui nous conduit vers Dieu, qui nous plonge en Dieu, entre nos désirs passionnés, possessifs, et cette pauvreté radicale qui conduit à l'amour frais. Au désert, Jésus va refaire d'une certaine manière le chemin que son peuple, le peuple juif, le peuple de Dieu, a fait pendant son exode d'Égypte. C'est, d'une certaine manière, une reprise de l'histoire. Là où il y a eu un certain échec, où le peuple juif n'a pas été fidèle, Jésus va connaître, lui, la victoire dans son abandon total à la volonté de Dieu. Et cette victoire sera elle aussi possible pour ses disciples, dans la mesure où ils s'uniront véritablement à lui.
Si tu es fils de Dieu.
Lors de son baptême, la voix divine avait dit à Jésus « Tu es mon serviteur, mon fils bien-aimé ». Elle affirmait ainsi un lien unique entre le Père et Jésus. Déjà, dans l'histoire d'Israël, le titre de fils de Dieu était attribué au peuple tout entier, mais d'une manière spéciale à son Messie. En effet, dans la Bible, éduquer quelqu'un, c'est d'une certaine manière l'engendrer à la vie morale et spirituelle. Dieu est notre Père, et il est notre Père parce qu'il nous engendre à sa vie, en nous communiquant sa règle de vie, la Torah. Le peuple de Dieu devient donc aussi fils de Dieu, dans la mesure où il se laisse éduquer par Dieu, en vivant selon la règle de vie, en agissant à la lumière de la pensée de Dieu. Et le Messie, eh bien, il est le fils privilégié de Dieu Père, parce que lui est responsable de la Torah, de la manière dont elle va être pratiquée par le peuple. C'est lui qui doit faire connaître la règle de Dieu et la faire respecter par ce peuple dont il est le chef. C'est cette filiation divine qui est en jeu dans cette mise à l'épreuve que sont les tentations au désert. Qu'est-ce que c'est qu'être fils de Dieu et comment devient-on fils de Dieu? Et on verra qu'en posant la question de ce qu'est être fils, fille de Dieu, on pose la question fondamentale de savoir qui est Dieu. Alors les lieux de la tentation, eh bien, ils ont peut-être été dictés par trois principaux courants qui, à l'époque de Jésus, annonçaient le Messie. Il y avait un courant prophétique qui disait que le Messie se tiendrait dans le désert. Il y avait un autre courant, plus sacerdotal, qui parlait de la manifestation du Messie, mais cette fois dans le temple. Et enfin un courant plus politique, qui décrivait le Messie comme le libérateur, un libérateur qui rassemblerait le peuple sur la montagne.
Ordonne que cette pierre devienne du pain.
Mais pour comprendre cette tentation, il faut sans doute se référer au récit de Jean. Le récit de Jean qui raconte le repas des pains multipliés et surtout la discussion qui s'ensuit ensuite entre Jésus et les foules. On voit qu'après le repas, les gens ont été enthousiastes et ils veulent enlever Jésus pour le faire roi Messie. Eh bien, sans doute que Jésus a dû vivre cela comme une tentation. En effet, il oblige précipitamment les disciples à quitter les lieux et lui-même fuit et se retire dans la montagne tout seul pour prier. Maurice Zendel a un beau commentaire de cet épisode.
La réaction de la foule apparaît à Jésus comme une catastrophe, parce que ce geste a été interprété comme le signe de l'avènement messianique, entendu dans le sens le plus matériel, le plus national, le plus limité. Le résultat de cette intervention miséricordieuse se retourne directement contre la mission de Jésus. Il est venu fonder un autre royaume, un royaume intérieur, spirituel, universel.
Le lendemain de ce grand repas à Capharnaüm, Jésus en effet va s'expliquer. Il reproche à ses auditeurs de ne pas saisir le sens profond de son geste du repas. Déjà, la tradition biblique avait expliqué le sens spirituel de la manne qui avait été reçue dans le désert. Lisons, écoutons ce qu'en dit le Deutéronome.
« Il t'a donné à manger la manne pour te faire reconnaître que l'humain ne vit pas seulement de pain, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. »
Jésus veut alors faire comprendre à ses auditeurs de Capharnaüm que le pain qu'il a partagé est le signe symbolique que son enseignement est un pain de vie. Sa parole est le vrai pain qui donne une vie d'éternité. Et cela parce que sa parole n'est pas seulement parole de lui-même, mais qu'elle est parole qui vient du Père, qui vient de Dieu. Eh bien, la réponse qu'il fait au malin va dans ce sens. L'humain, dit-il, doit vivre de la parole de Dieu s'il veut vivre au plan où Dieu, son Créateur et son Père, au plan où Dieu l'appelle à vivre. Oublier cela et vivre seulement au plan des nourritures terrestres, c'est finalement se couper de Dieu et renoncer à être fils, fille du Père divin. C'est renoncer à devenir l'être humain tel que Dieu espère que nous devenions. Un être humain qui ne peut se réaliser que par notre libre oui à cette à venir à cette destinée éternelle que Dieu veut pour nous. Reprenons encore une fois Maurice Zendel.
Ce qui est passionnant dans un être humain, c'est qu'il peut et qu'il est appelé à révéler Dieu. Il y a en nous une beauté secrète, une beauté merveilleuse, une beauté inépuisable. En nous, il y a une infinie, une éternelle, une inépuisable nouveauté. Ce champ de Dieu que nous avons à devenir, cette lumière de Dieu que nous avons à communiquer, qui doit devenir l'expression, le rayonnement et le sourire de notre visage, qui doit devenir le rythme et l'harmonie et la mélodie et la danse de notre corps tout entier. Le Christ est venu révéler à l'homme qui il était. Il est venu accomplir l'homme dans toute sa grandeur, dans toute sa dignité, dans toute sa beauté. Nous portons en nous ce trésor de la vie éternelle. Nous portons en nous cette présence infinie qui est le Dieu vivant. En Jésus, il n'y a que le oui. En lui, oublions tous nos non, toute notre négativité, toute notre lourdeur, toute notre usure, toutes nos limites, toutes les limites des autres. Portant sur notre visage la joie de l'amour de Dieu et le sourire de son éternelle bonté.
Ils sont sur le droit chemin du bonheur ceux qui ont faim et soif, dira Jésus. Et Matthieu précisera qu'il s'agit là de la faim et de la soif de la justice, c'est-à-dire d'une faim et d'une soif de la droiture du cœur, de la fidélité à l'enseignement de Dieu. Voilà ce qui fait vivre un fils de Dieu. Et Jésus le redira tout au long de son ministère de maintes façons.
Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Ne vous tourmentez pas, car ce sont là toutes choses dont les païens de ce monde sont en quête. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Par contre, cherchez son règne, et ces choses viendront après, pour vous.
Chercher le règne de Dieu, c'est donc chercher à vivre selon la règle de vie que Dieu nous a donnée. C'est faire de l'amour du prochain le premier absolu de notre vie. Et c'est aussi le sens de la prière que Jésus nous fait faire. Père, donne-nous aujourd'hui le pain, mais le pain du jour qui vient. Et le jour qui vient désigne la vie d'éternité, la vie d'immortalité, notre communion à la vie divine.
Si tu m'adores, je te donnerai tout ce pouvoir.
Comment comprendre, d'une certaine manière, que Jésus a pu avoir une telle tentation, vouloir adorer le malin? Les évangiles, et notamment l'écrit de Jean, donnent à ce malin le titre de prince de ce monde. C'est dire combien le monde est soumis aux forces du mal. C'est à moi que cela appartient, dit justement le malin à Jésus. Et cela parce que il dépend du libre consentement de chaque être humain que le règne de Dieu puisse venir. Oui, le règne de Dieu est toujours à faire, toujours à recommencer, parce que sans cesse notre liberté va à l'encontre de ce règne de Dieu. Le récit de Jean présente la passion de Jésus comme une lutte contre le prince de ce monde.
Le prince de ce monde vient. Certes, il n'y a sur moi nulle prise, mais il vient, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon ce qu'il m'a prescrit. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les humains.
C'est ce don de soi par amour et qui ira jusqu'à la mort qui va rendre Jésus vainqueur du malin, parce que ce don de soi est la réponse d'amour de Jésus à tous les violents qui veulent l'écraser. Adorer le prince de ce monde, ce serait en effet servir les forces de la violence et se servir d'elle pour dominer sur les autres. Jésus le dit, les rois des nations dominent sur elle. Pour vous, mes disciples, que celui qui commande prenne la place de celui qui sert. Adorer Dieu, c'est servir un Père qui n'est qu'amour et qui ne peut donc vaincre personne par une puissance et une force violente. Même envers ceux qui l'accueillent comme Père, Dieu ne peut régner sur eux, devenir leur Père, sans leur libre oui. Même envers ceux qui le rejettent, Dieu se trouve comme désarmé. Il ne peut que respecter la liberté de ces humains qu'il a créés. Le Dieu Père n'est pas le taureau d'or, symbole de force, que les Hébreux ont été tentés d'adorer dans le désert. Il n'est pas le Dieu des armées célestes, qui triomphe du mal en exterminant les pécheurs. Il est le Dieu Père de ce Jésus qui s'est laissé crucifier pour vivre l'amour et le pardon jusqu'au bout. Simon-Pierre lui-même aura difficulté à percevoir la croix comme cette preuve divine de l'amour.
Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Retire-toi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des humains. »
Cette tentation de la violence n'est pas en effet seulement celle des grands de ce monde. C'est une tentation qui nous est quotidienne dans nos relations tout à fait ordinaires, entre époux, entre parents et enfants, entre amis, entre compagnons et compagnes de travail. Il nous est en effet plus naturel d'imposer nos goûts et nos désirs que d'être à l'écoute de ceux des autres. Il nous est plus facile de dicter nos choix aux autres que de composer avec eux. Il est, d'une certaine manière, plus attirant d'admirer la force du puissant que celle du doux et humble de cœur. Aujourd'hui encore, comme pour Pierre, la croix peut nous faire douter de la puissance de Dieu.
Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas.
Le malin fait entrer subtilement dans le cœur le doute en l'amour de Dieu. Dieu aime-t-il les êtres humains au point de les protéger de tout malheur? Dieu s'occupe-t-il vraiment d'eux au point de les secourir s'ils sont en danger? Le malin cite l'Écriture, un psaume, il donnera ordre à ses anges de te porter sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas la pierre. Cette question a été celle du peuple de Dieu dans le désert lorsqu'il était mort de soif. « Ah, Dieu est-il au milieu de nous, oui ou non ?» se demandait-il. La tentation est ici de défier Dieu en exigeant de lui, comme un droit, comme un dû, qu'il nous manifeste sa bonté et qu'il nous protège de tous les maux. On sait qu'exiger l'amour, c'est d'une certaine manière tuer cet amour, puisque l'amour ne peut être que don libre, gratuit, une grâce. Et que cela en est ainsi entre êtres humains, entre l'homme et la femme, entre enfants et parents, entre amis, et qu'il en est ainsi avec Dieu. François de Sales disait qu'il ne faut rien demander à Dieu, ni rien lui refuser. Oh certes, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire à Dieu nos besoins. Il faut sans doute entendre ici « demander » au sens d'exiger. Il ne faut pas mettre à l'épreuve Dieu en exigeant de lui telle ou telle chose comme preuve qu'il nous aime. Si tu m'aimes, donne-moi telle grâce, fais-moi réussir à tel examen. Car alors, on peut se mettre à douter de Dieu et de son amour si l'on n'obtient pas ce que l'on demande. Eh bien, cette tentation parviendra à Jésus par les demandes répétées de ses adversaires.
Pour lui tendre un piège, les pharisiens et les sadducéens lui demandèrent de leur montrer un signe venant du ciel.
Jésus va répondre en accusant cette génération d'être une génération adultère, c'est-à-dire infidèle à son amour de Dieu qui est son époux.
En fait de signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe de Jonas.
Eh bien, quel est ce signe de Jonas? Le signe de Jonas, c'est le signe de la miséricorde inlassable de Dieu, une miséricorde qui s'exerce envers tous. On sait que Jonas était déçu de voir Dieu faire grâce aux gens de Ninive. Les gens de Ninive avaient décidé de changer de vie pour répondre justement à la prédication de Jonas. Jonas aurait voulu que Dieu châtie cette ville, qu'on disait la ville de tous les vices. Alors il se plaint auprès de Dieu. « Je savais, dit-il, que tu es un Dieu de bonté et de tendresse, lent à la colère, riche en grâce. » Oui, Dieu fait grâce gratuitement. Il suffit d'accueillir son amour. Il fait grâce aux justes comme aux pécheurs. Il fait grâce aux juifs comme aux païens. C'est le seul signe, ce signe de l'amour de Dieu, à travers l'image de Jonas, c'est ce seul signe que Jésus voudra donner de Dieu, celui d'un Père inépuisable en amour, qui ne se retient jamais de pardonner. Les miracles de Jésus ne seront pas pour lui des signes merveilleux qu'il ferait pour donner des preuves de la puissance de Dieu et pour contraindre à croire en lui. Jésus n'utilisera jamais la peur de Dieu pour forcer les gens à écouter son message. En effet, ce n'est jamais par la crainte qu'on peut amener quelqu'un à aimer. Les miracles seront toujours pour Jésus des signes gratuits de la compassion de Dieu. Et seuls les cœurs qui sont accordés à cette bonté inconditionnelle de Dieu se laisseront aimer et guérir par lui. Le miracle ne peut que conduire à l'amour, jamais à la crainte de Dieu. Enfin, la tentation poursuivra Jésus jusque sur la croix par la voix des spectateurs.
Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ».
Et l'on sait que la réponse de Jésus sera de se remettre totalement entre les mains du Père. « Père, en tes mains, je remets mon esprit, mon souffle de vie ». C'est l'ultime geste d'abandon, ultime acte d'amour du Fils de Dieu envers son Père. Jésus savait que s'il demandait au Père de lui épargner de vivre ce geste d'amour qu'est la croix, ce serait comme s'il lui demandait de se renier lui-même. C'est ainsi qu'il va répondre au malin qu'il ne mettra pas Dieu à l'épreuve. Terminons avec cette belle prière d'abandon de Charles de Foucault qui traduit si bien cette foi absolue en l'amour du Père.
Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur parce que je t'aime et que se met un besoin d'amour de me donner. De me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
Vous pouvez également nous retrouver sur Internet. Voici l'adresse de notre site, relaismontroyal.com. Relais Mont-Royal en un seul mot et sans tiret.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30, en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.
So